Bienvenue sur Divan Noir, le podcast dédié aux histoires des femmes invisibilisées, aux histoires des femmes qui vous ressemblent. Je suis Mariam, sociothérapeute spécialisée en transculturalité. J'accompagne des femmes racisées ou concernées par la double culture sur le plan de leur santé psychologique et sociale. Divan Noir, c'est un podcast qui participe à rendre visibles des parcours de vie de femmes qui sont invisibilisées par notre société. Ces femmes qui sont partout, mais que l'on entend et qu'on ne voit vraiment nulle part. Ici, vous entendrez leurs histoires. Bienvenue dans ce nouveau masala. Alors, mea culpa, je commence par ça parce que j'ai pas trop bien respecté la dynamique d'une émission toutes les deux semaines. Mais j'ai vécu une expérience assez incroyable ces derniers temps et il m'a fallu revenir un petit peu sur terre. Enfin bref, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet. Je voulais vous parler d'un sujet et de plusieurs sujets dans le même sujet. Je m'explique, on va parler dépression, religion, on va parler thérapie, voilà. On va parler plein de petites choses comme ça. Et voilà, ce sujet me semblait intéressant à évoquer à la suite de l'émission sur le témoignage de Penda sur la dépression. Et là, on va en parler, on va faire ce que j'appelle un 360. Et je vais m'expliquer. Donc pour rappel, parce que je trouve que là c'est important peut-être de me représenter, je m'appelle Mariam, je suis noire, je suis musulmane, je suis d'ethnie soninké, je suis malienne, un peu guinéenne aussi, je suis une femme, je suis thérapeute, je suis formée en transculturalité et voilà, je suis actuellement étudiante en psychanalyse. Et comme mes études en transculturalité me l'ont enseigné, quand tu abordes un sujet, quel qu'il soit, tu te dois de faire un 360 degrés et pas uniquement l'aborder avec tes propres lunettes ou encore avec ceux de la majorité ou des dominants. Yep, on décolonise toujours et on remet la mosquée au centre du village. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent c'est quoi la sociothérapie, en quoi c'est différent d'une psychothérapie traditionnelle, eh ben c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va faire un 360 du patient et de son problème d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire du point de vue de ses appartenances sociales et identitaires, et on va faire la même chose avec sa problématique. Le but étant de comprendre et analyser comment toutes ses appartenances, elles impactent son problème, et comment à partir de ses appartenances aussi, on peut trouver des leviers. Rentrons dans le vif du sujet. Et je vais commencer par une anecdote. J'ai une accompagnée qui, à la fin d'un suivi, un jour, m'a dit qu'elle avait eu beaucoup d'appréhension, car parce qu'elle avait vu en fait un certain nombre de posts, donc des posts issus de la communauté musulmane, où des personnes en fait disaient que la psychologie était incompatible avec l'islam. Bon, j'ai eu envie de rire, j'ai rigolé, et on a bien rigolé ensemble, mais en réalité, voilà, comme j'ai dit, hein, je suis en études, en master de psychanalyse, et je ne vais pas vous mentir, j'ai entendu plus d'une fois des choses qui vont à l'encontre de ma religion. De la même manière que quand j'ai été dans mes études d'aide sociale, de la même manière que dans la vie de tous les jours, partout, tout le temps. Le monde et tout ce qu'il nous apporte n'est pas tout blanc ou noir. Et si c'était cela, nous musulmans, nous devrions nous imposer de vivre à l'extérieur de la société et replier sur nous-mêmes. Mais ça, c'est le souhait des racistes et c'est le comportement de ceux qui vivent dans la peur. Donc oui, il va falloir qu'on parle aujourd'hui de cette opposition entre thérapie et foi religieuse, de cette invalidation systématique qu'impliquerait dans l'imaginaire collectif l'un sur l'autre. Parce que oui, on a affaire à deux mouvements. Le premier, c'est le monde dit moderne et scientifique qui remet en question les religions, les personnes religieuses et qui passe tout leur temps à décrédibiliser les personnes qui ont une confession religieuse en fait. Et de l'autre côté, eh ben, du coup, on a les personnes de confession religieuse qui remettent en question la thérapie, en remettant en question les croyants qui y ont recours. Finalement, la vie du croyant, elle n'est pas facile. Hein. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de psychologie, de psychanalyse, de religion à la sauce transculturelle, c'est-à-dire en faisant un 360. Et je vais vous parler, en fait, pour illustrer un peu tout ça, d'une théorie qu'on retrouve et dans la psychanalyse, et aussi dans la religion musulmane. et dans laquelle j'ai trouvé une piste de réflexion, voire de réponse. Donc en fait, dans des recherches effectuées par des savants religieux et des docteurs en psychologie musulmane, qui peut du coup aider les musulmans à comprendre ce qu'ils traversent, notamment lorsqu'ils vivent une dépression. Donc, juste pour recontextualiser, quand on parle de psychologie, il faut savoir que dans la traduction littéraire, qui est celle du coup du latin, on évoque en fait la question de l'âme et de l'esprit. Alors, pour ceux qui sont familiers des formations, des études en psychologie, en psychanalyse et autres, dans tout ce qui relève en tout cas du champ occidental, on parle jamais d'âme et d'esprit, on va plutôt parler d'inconscient, de cerveau, de neurones. Alors que dans les communautés traditionnelles, et par communauté traditionnelle, je vais dire, j'implique la communauté musulmane, j'implique les communautés ouest-africaines, les communautés maghrébines, on va plus parler de l'âme et de l'esprit, et ça va être l'âme et l'esprit qui vont être au centre de tout. Et donc, je voudrais, pour illustrer du coup cet exemple, vous parler de la question du vide, qui revient beaucoup, par exemple, lorsqu'on parle de dépression et de ce que ça évoque. Alors, la version psychanalyse du vide, c'est ce qu'on va appeler la chose, ou encore le dasding, la béance dans la conscience, selon Freud. Ah non, ça c'est Lacan, excusez-moi. Et c'est en fait ce vide intersidéral qui est antérieur à l'humain. C'est ce qui le constitue, et c'est à partir de celui-ci que va se construire toute la vie psychique et pulsionnelle de l'individu. Ce vide, c'est ce qu'on appelle parfois, en psychanalyse, la catastrophe. C'est ce qui est quelque part toujours présent chez l'individu, mais qui va être minimisé ou amplifié par la vie psychique de la personne. Et quelque part, c'est l'idée que l'être humain, il naît boiteux, qui va devoir travailler, construire ses solutions pour faire face à la vie. Ce vide, c'est un peu une forme de mort. C'est pas une mort physique, c'est pas une mort physiologique, mais c'est une mort psychique. Une petite mort à partir de laquelle l'individu va toujours essayer de se régénérer, de se reconstruire. On parle d'ailleurs de pulsion de mort et de pulsion de vie. Bon, si vous avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est pas grave. C'est normal et c'est pas grave. Retenez juste le mot vide. Et juste un petit nota bene, en psychanalyse, les définitions précises et compréhensibles d'un concept, en fait, ça n'existe pas. On étudie les concepts pratiquement tout le temps. Et les gens ont même créé un dictionnaire de la psychanalyse dont les psychanalystes eux-mêmes passent leur temps à réfuter. Donc, vous voyez les problèmes dans lesquels je suis actuellement. Enfin bref, le vide en islam. Allez. Donc en islam, et je vous mettrai les sources d'un ouvrage créé justement par un docteur en psychologie islamique. Je crois que c'est le docteur Utz, si je prononce pas. Bon, excusez-moi pour la prononciation, en tout cas je vous mettrai les ressources. Donc particulièrement si on prend la psychologie à la lumière de l'islam, on peut aussi parler de vide constitutif de l'être humain. Ou plutôt un vide qui tire son explication en tout cas de la façon dont est constitué l'être humain. Donc dans la psychologie musulmane, on dit que l'être humain a été créé uniquement pour adorer son créateur. Par adoration, il ne s'agit pas uniquement de dire « je suis musulmane » ou « je crois en Dieu ». Ça incarne un réel mode de vie basé sur l'adoration du Tout-Puissant et qui va impacter la vie du croyant sur tous les plans. L'adoration, elle ne consiste pas à rester assis toute la journée, à méditer, mais à vraiment l'impliquer dans son quotidien. Et dans le Coran, Allah dit que croire en lui est instinctif chez l'être humain. C'est ce qu'on appelle la fitra. Et la fitra, en fait, c'est une tendance naturelle que d'admettre qu'on a été créé par un être transcendant. Et lorsqu'on va à contre-courant de cette tendance instinctive, et ben on retrouve quoi ? Le vide. Être dans l'adoration du Tout-Puissant, c'est vivre en harmonie avec sa propre nature. Et c'est d'ailleurs cette nature, cet instinct, qui expliquera le nombre de personnes croyantes et spirituelles dans le monde, quelle que soit leur religion, leur spiritualité. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer ça. Il y a un sondage qui a été réalisé dans plus de 60 pays qui montre que 87% de personnes se considèrent comme appartenant à une religion. Donc ces études, elles ont été faites dans des pays sans viser particulièrement pays majoritairement musulmans, non, c'est pas 60 pays, 87% se considèrent comme appartenant à une religion. En Afrique de l'Ouest, la même étude a été réalisée et on est à 99% de personnes croyantes, toutes religions confondies, même si on sait qu'en Afrique de l'Ouest, ce sont majoritairement des musulmans. Et aux États-Unis, et ça je trouve ça encore plus intéressant par rapport à ce qu'on est en train d'aborder là, 21% d'athées, les athées c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, hein, pour faire simple, 21% des athées aux États-Unis croient en un esprit universel, 1 sur 5. C'est beaucoup, hein? Bon, continuons. On va continuer à illustrer cela. Lorsqu'on est affligé par un malheur, peu importe nos croyances, on a tendance à faire appel et à demander de l'aide à ce quelque chose qui est enfoui dans nos cœurs. Par exemple, il t'arrive quelque chose de grave, tu fais un accident, tu apprends qu'un proche est en danger. En tout cas, tu es dans l'attente de savoir ce qui va se passer et tu sais qu'il y a un danger, tu sais qu'il y a quelque chose d'important qui est en jeu. Qu'est-ce que tu fais, croyant ou pas croyant? Tu te mets à prier, même si tu n'as jamais prié. Tu te retrouves à le faire et à implorer pour cette personne. Cet appel automatique, là, cette espèce de truc que tu fais quand tu es au plus bas, quand tu es dans une situation de danger, etc. Et bien cet appel automatique, il montre la dimension instinctive qui est la fitra pour les musulmans. Finalement, la question de la recherche de sens dans la vie, la question du vide et le fait que nous avons été créés pour adorer Allah, ça serait le sens naturel de notre vie. Donc, le docteur en psychologie musulmane dont je vous ai parlé, il dit dans son livre, si une personne ne reconnaît pas le droit d'Allah comme étant le seul à être adoré, elle vénérera autre chose, une statue, un autre être humain, une philosophie, l'argent ou quelque objet ou idole que ce soit. Donc avoir un objet de culte, ça fait partie de la nature humaine. Alors il faut se poser la question, et je te la pose, quel est ton objet de culte? La réponse pourra peut-être être très intéressante et instructive pour toi. Bon voilà, je vous fais une lecture d'une chose donc, qu'on retrouve dans les cas de dépression à travers la psychanalyse puis l'islam. Et je vous ai même sorti des chiffres, mais dans la réalité, on le sait et on le vit, d'autant plus quand on est dans mon métier, l'opposition entre foi religion et thérapie psychologie, c'est la kryptonite. Enfin, on ne peut pas. C'est à la limite, on ne pourrait pas croire en la psychologie, comme si la psychologie relevait de quelque chose de divin ou d'une religion, si on avait la foi. En gros, la psychologie, la psychanalyse, tout ce qui relève du psy, ce n'est pas pour le musulman. Et de l'autre côté, avoir la foi en une puissance divine, avoir une religion, ce serait un aveu de faiblesse aux yeux du monde psy. J'aurais pu faire le réel, je suis thérapeute et musulmane, bien évidemment que, mais je vous jure, je ne suis pas prête pour gérer les retombées en DM, et en plus, je n'ai pas le temps. Donc, bon. Lorsqu'il s'agit d'indiquer que lorsqu'on a recours à la thérapie ou à la psychologie, ça relève d'un manque de foi. Qu'est-ce qu'on indique par là en fait? Et là, pour être clair, on parle de confiance en Tout-Puissant, on parle de Tawakkul pour les musulmans. Qu'est-ce que c'est que placer sa confiance au Tout-Puissant? Est-ce que cela veut dire que lorsque l'on souffre d'un cancer, on doit prier et invoquer et ne pas consulter de médecin ou recourir à un traitement? Est-ce que cela signifie que l'on doit rester dans une relation de couple dans laquelle on souffre sans jamais rien changer parce qu'on a invoqué et prié en demandant à Allah une issue favorable? Est-ce que cela signifie que lorsqu'on souhaite trouver un emploi, il suffit d'invoquer et de prier, puis de ne jamais faire la démarche d'envoyer ne serait-ce qu'une seule candidature, ni de faire quoi que ce soit d'autre qui puisse nous aider à trouver du travail? Alors bien sûr, quelqu'un de mauvaise foi, ouais, le mot foi revient, vous dirait « Mais Dieu est capable de toute chose, il dit soi et la chose est, et cela est tout à fait juste. » Mais ce qui est juste, est-ce qu'il est encore plus, est-ce que ce n'est pas d'invoquer, de faire ce qu'on appelle les causes? Est-ce que la thérapie, ce ne doit pas juste incarner une cause, genre ni plus ni moins, juste une cause? Encore, et ça je vous l'accorde, faut-il bien choisir son thérapeute, un thérapeute qu'on appelle safe, ou un thérapeute à minima concerné par nos problématiques? Et quand je parle de problématiques, c'est concerné par tout ce qui va relever de notre culture, de notre religion, etc. Je sais pas. Le problème étant qu'à cause de la manière dont est décrédibilisée la religion, les présupposés, les idées reçues sur les personnes croyantes. Oui, dans le cadre pro, je vous le dis, j'en ai entendu des choses bien costauds, bien... Il y a une honte et des freins à parler de sa foi et exposer l'aspect religieux. On passe pour des gens crédules, pas très sensés et logiques, qui n'ont rien compris à la vie. Alors des fois, on va prendre un thérapeute et on va absolument pas parler de notre foi et comment elle s'applique à nous au quotidien. On va pas aborder certaines choses qu'on va vivre et qui vont être liées à notre foi, à notre religion. Et finalement, ça peut complètement biaiser votre thérapie. Alors que cela, la thérapie, ça représente un investissement financier, personnel, affectif, du temps, etc. Tout ça alors que de nombreuses études montrent que la foi est bonne pour la santé mentale. Oh oui, la foi, c'est comme une source d'énergie pour l'âme. Elle fournit à l'individu la force et la capacité de mener à bien ses devoirs essentiels dans la vie, de travailler à l'amélioration de sa propre personne, de sa famille et de la société. Et ça, il faut le mettre dans la perspective de l'équilibre, de ce qui est juste. Et comme on le dit souvent, l'islam, c'est la religion du juste milieu. En tout cas, pour ceux qui le vivent et ceux qui sont en interne. À l'extérieur, c'est pas ce qu'on entend, c'est pas grave. Parce que bien sûr, si dans ta foi, tu fais de la culpabilité, par exemple, une pièce maîtresse, et tu passes ta vie à t'auto-flageller, bien sûr, ça va pas fonctionner. La culpabilité, ok, un peu. De la même manière que si tu es animé uniquement par la crainte et l'interdit, hashtag halal haram, pareil, ça ne fonctionnera pas. Pareil, encore une fois, si tu es animé uniquement par l'amour sans qu'il y ait de crainte d'Allah, tu feras forcément face à des excès, des difficultés et à des déséquilibres. Tout est une question d'équilibre et de juste milieu. Mais ta foi est bonne pour ta santé mentale. Ma religion, la religion musulmane, m'enjoint à prendre soin de ma santé physique et mentale. Et parfois, ça peut passer par la thérapie, sans que cela ne dise absolument rien d'une baisse de foi pour moi. Et c'est la même chose pour vous. Donc, j'aimerais finir par quelque chose. Nous sommes les communautés de la parole. Une bonne parole est comparable à un bon arbre dont les racines sont solidement implantées dans la terre et dont les rameaux remontent vers le ciel. Tandis qu'une mauvaise parole est comparable à un mauvais arbre déraciné de la terre, toujours vacillant. Verset 24, Sourate Ibrahim. C'est dans le Coran. Je vous invite à réfléchir et à méditer sur ce verset. Sur le fait d'avoir une bonne parole, des mots positifs, réconfortants, bienveillants. Méditons sur le fait que la parole, qui est un outil important dans nos quotidiens et dans notre construction, est aussi l'un des points incontestables de la thérapie. C'est l'outil principal du thérapeute. Et le but d'une thérapie, c'est aussi cela. C'est de planter des graines à travers son discours et celui du patient. Des graines qui vont lui permettre de grandir, de guérir, d'évoluer solidement. Nous sommes la communauté du dire et de la parole. Et quand je parle de communauté, je parle de ma communauté à moi en tant que musulmane, de ma communauté à moi en tant qu'africaine de l'Ouest, etc. Oh oui, c'est chez nous où il y a une caste sociale. Les griots entièrement dédiés au dire et à la parole. C'est chez nous qu'on organise les assises. C'est chez nous les masalas quand il y a un problème. Clin d'œil. Comment renier l'effet de la thérapie en se disant que parler ça ne sert à rien, c'est pour les faibles, c'est un truc de blanc. Alors que nous sommes les communautés du dire et de la parole. Des grâces. D'ailleurs, s'il vous plaît, arrêtons avec ce truc-là. Nous ne sommes pas condamnés à souffrir. Et puis, je vais poser quelque chose et puis après, je vais partir tranquillement et je vais finir là-dessus. Et j'espère qu'on ne va pas attraper mon col. À ceux qui disent « Nous, Africains, nous n'avons pas besoin de ce truc. Qu'insinuez-vous » Sommes-nous, avons-nous vocation à être immunisés à la souffrance ? Sommes-nous autre chose que des êtres humains ? D'ailleurs, ces questions-là même, ce n'est pas des interrogations d'esclavagistes ou de colons. Allez, sur ce, je vous invite à réfléchir là-dessus. Et je vous quitte. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutés et entendus. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. À bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.